Et j'avais même pas de désir de me dire « Je vais devenir comédien puis je vais rentrer dans la plus belle école professionnelle de théâtre. »
Il y a une partie où est-ce qu'on, nous, on se voit en tant qu'animal, on reconnaît des comportements qu'eux autres ont.
Cavalia qui te demande de faire des toiles, c'est incroyable comme offre.
Je me sers de l'anxiété ruminatoire pour obséder sur mes numéros. Sans
filtre. Et je reçois Arnaud Soli, un jeune humoriste dont on entend de plus en plus parler. Il lance d'ailleurs son premier spectacle solo qui s'intitule Stand Up. Arnaud, je suis ravie de te recevoir.
Merci.
On te voit, t'es un des multiples chroniqueurs de la semaine des 4 juillet.
Ouais.
Là, tu fais ton premier stand-up, mais tu viens d'une famille de musiciens classiques.
Ouais.
Et on t'a reconnu quand, avec un... Très drôle, une espèce de numéro où tu joues de la flûte avec ton frère, le nez.
Oui, avec mon nez. Mais en fait, c'est que c'est une blague que je faisais, moi, pour faire rire mes amis à l'école. Tu sais, j'ai une formation de musicien, donc j'ai joué la flûte, ben, comme tout le monde au primaire. Mais après ça, j'ai continué moi, la flûte traversière à l'orchestre, ça, en cours privé. Puis donc, j'ai toujours joué de la musique. Je suis d'une famille de musiciens, tu viens de le dire. Puis je me suis rendu compte à un moment donné au secondaire que ça faisait beaucoup rire les gens quand je jouais de la flûte avec mon nez, avec un certain talent.
Et tu sais que je vais te demander de me le faire live. Là.
Ben, as-tu une flûte?
Ben, tu peux pas le faire avec... Ça te prend vraiment une flûte ou tu peux juste le faire avec le nez?
Et, c'est-à-dire, ça prend une flûte.
Ça prend une flûte. Ouais, heureusement qu'on a un extrait. Non, mais attends, là, imaginez, là. Là, c'est le nez et non la bouche qui joue de l'instrument.
Alors, les jeunes au primaire qui trouvent ça long, la flûte, croyez en vos rêves, là, ça débouche. Des belles débouchées en flûte nasale.
La flûte nasale, c'est très drôle. Qu'est-ce qui t'a amené à l'humour?
C'est un paquet d'accidents, puis c'est aussi une recherche de... Tu sais, moi, j'ai fait de l'art visuel, moi, j'ai étudié là-dedans. Je voulais être peintre pendant des années. Puis...
Tu as été à l'Université Concordia?
Oui, j'ai mon bac en peinture. Et puis, en sortant de l'école, quand j'étais seul dans l'atelier, je me rendais compte que j'étais profondément malheureux d'être tout seul. Moi, j'avais fait de l'impro, j'avais fait un paquet de trucs. J'étais toujours le petit comique dans ma classe. Donc, j'avais ce côté-là. Depuis que je suis jeune, je suis fasciné par l'humour. Je louais des cassettes juste pour rire. J'avais 7 ans, j'écoutais des bye-bye en boucle. J'étais fasciné par la musicalité des blagues, l'espèce d'énergie, puis la science du rire, d'essayer de trouver comment faire rire. Ça m'a toujours passionné, mais je pense que je considérais pas que c'était un métier qui était valable. Peut-être mon background un peu plus famille de musiciens, c'est un peu sérieux, tout ça, je sais pas. Donc, ça a pris du temps avant d'assumer que c'était peut-être vraiment ma voix. Donc, j'avais autour de 25 ans, j'essayais de vivre une vie d'artiste peintre, puis ça marchait pas du tout, j'étais malheureux. Puis...
Mais est-ce que tu avais un talent? Parce que des fois, on veut, mais si tu t'es rendu en art visuel à Concordia, qui est une école très cotée...
Ben, je pense que j'avais un certain talent.
Si tu devais avoir du talent d'artiste. Là.
Mais au-delà de ça, c'est... Oui, peut-être j'avais un certain talent, mais qu'est-ce que je veux exprimer, moi, comme artiste? Puis comme en peinture, je sentais pas que j'avais une passion qui était similaire à celle que je peux retrouver sur scène, où est-ce que là, je me sens complètement à ma place. Mais tu sais, des fois, dans la vie, ça prend du temps, puis... Il y a des gens aussi qui écoutent, puis j'aime ça dire ça à des plus jeunes qui disent « Ah, je sais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie.
»
c'est normal, tu sais. Je veux dire, c'est pas fort. Tu sais, il y en a qui vont trouver leur voie rapidement, mais ça se peut qu'à 18 ans, 20 ans, t'as juste le goût d'essayer des trucs.
C'est jeune pour être sûr de ce qu'on veut faire.
Je pense que oui, puis de plus en plus, en tout cas, ma génération, j'ai 30 ans, mais on change de métier, on découvre, puis c'est long une vie, tu sais. On peut vivre plusieurs choses, mais bref, là, j'ai commencé l'humour il y a environ 5 ans, puis ça a été vraiment un coup de foudre instantané.
Oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, on a un extrait de ton premier gala juste pour rire. Okay.
Je prends le métro l'autre jour, je descends dans le métro, vous voyez comment c'est fait? Il y a le gars derrière sa vitre qui vend des billets. Puis à la fin de la transaction, le gars, il me dit « Bonsoir, merci, mais moi, j'ai compris, sors-moi d'ici. » J'ai vu quelque chose qui m'a touché récemment dans le métro et j'ai envie de vous laisser sur quelque chose d'un peu plus émotif. Ça va paraître anodin pour certains, mais ça m'a tellement fait du bien cette journée-là. Je filais pas, j'ai envie de le partager. J'étais dans un wagon de métro, en pleine canicule, heure de pointe. Le wagon est bondé de monde. Et je vois une vieille madame se lever de son siège pour laisser sa place à une encore plus vieille madame. Puis moi, j'étais assis juste à côté, puis j'étais comme « Wow! »
Tu es dans la catégorie des conteurs, un peu, en type d'humour. Comment tu...
J'aime décrire mon humour un peu comme un hybride entre le stand-up et l'anecdote. C'est-à-dire que j'aime parler de moi. Je vais quand même puiser beaucoup dans mon récit de vie. Ouais. Puis je trouve que c'est la chose la plus... intéressante à faire pour moi parce que j'ai mon parcours, il est unique, mais après ça, tout le monde va se retrouver là-dedans. Puis des fois, j'aime aussi parler de sujets qui nous entourent, comme là, ici, je parlais du métro parce que je l'ai pris souvent le métro, donc c'est un humour qui est d'observation, mais aussi personnel, donc c'est un beau mélange.
Il y a quelque chose que tu as fait en début d'année qui m'a beaucoup touché. Tu as écrit une lettre à ta fille qui vient de naître, qui a quelques semaines.
Il y a deux mois.
Il y a deux mois. Ouais, ouais. Parce que ça a été une grosse année, l'année 2019 pour toi. Ouais. Tu t'es marié, tu as eu un bébé, tu t'es acheté une maison avec ta blonde. Là, tu fais ta première tournée solo. C'est comme beaucoup dans une année.
Ouais, vraiment.
Puis en début d'année, tu as senti le besoin d'écrire une lettre c'est important, c'est un message. Je trouve ça vraiment touchant. Je pense que tous les jeunes parents devraient faire ça, puis même les plus vieux aussi. Jamais trop tard pour bien faire. Mais tu as senti le besoin d'écrire à ta fille qui venait de naître?
Il y a plusieurs choses. C'est que je lui parle toujours à ma fille, mais elle me comprend pas, ou en tout cas, peut-être qu'elle comprend des trucs. Mais
c'est important de parler à son bébé.
Mais j'y parle tout le temps, puis j'avais quand même un petit peu envie de, et pour moi et pour elle, comme dire un message, puis le figer comme pour... Parce qu'on vit plein d'angoisse comme jeunes parents. C'est des moments d'euphorie intense, mais c'est énormément d'angoisse. On fait-tu les choses comme il faut? Ça va-tu bien aller? On se crée un petit cocon, puis on a peur d'en sortir. Puis déjà, j'ai peur de ne pas être un bon parent. Là, quand je pars en tournée, je me sens coupable de la laisser. Ben, je la laisse pas tout seul, évidemment. Ouais. Mais il y a toutes ces angoisses-là. Donc, je trouvais que, de le mettre en mots, c'était une manière de... Ben, en général, de dédramatiser, de dire « bon, ben, c'est ça que je vis », mais aussi de le réécouter avec elle dans 10 ans. J'espère que ça va prendre un nouveau sens.
Qu'est-ce que tu lui dis, entre autres?
Je lui dis essentiellement que je l'aime, puis que je vais changer sa couche bientôt. Là, puis... Mais moi, j'ai peur, comme parent, de... Je veux pas mettre trop de pression à ma fille. Je veux qu'elle ait le choix. Tu sais, je pense qu'on est quand même privilégiés, chanceux. Moi et ma blonde, on vit du métier qu'on aime. On est bien entourés, on a de la famille, des amis. On est quand même au Québec, ça va bien. Nous, en tout cas, dans nos vies. Mais j'espère que cette fille-là... Je vois les jeunes aujourd'hui qui se mettent la pression avec les réseaux sociaux, qui se comparent, les standards de beauté, la pression de performance dans notre société, le taux d'anxiété qui n'a jamais été aussi élevé. L'état de la planète qui est inquiétant pour certains aussi. Donc, je prends tout ça en considération. Puis là, je vois ce bébé-là qui est encore tout pur, ou en tout cas tout comme à l'abri de ça. Puis il y a une partie de moi qui a déjà peur un peu de la laisser aller là-dedans. Mais d'un autre côté, je ne veux pas être celui qui l'empêche de découvrir le monde. Donc, on dirait que ça me met face à un certain paradoxe de je veux la voir s'épanouir, puis être forte, puis autonome, puis unique. Puis en même temps, je veux la protéger, tout ça. Donc, ça... C'est bien confrontant, la parentalité, mais c'est magnifique en même temps.
Oui, puis toi aussi, t'es, d'une certaine façon, tu sais, 30 ans, c'est tout jeune.
Quand même.
Fait que t'es confronté sans doute aussi à ta propre réalité, à toi. Tout ce que tu te demandes pour ta fille,
tu
poses la même question sans doute pour toi.
Définitivement,
oui. Tout est affaire.
C'est un miroir. Oui, oui, puis absolument. Puis c'est pas comme si je la largue dans un monde duquel je me déresponsabilise. Là,
non.
Mais c'est quand même... Tu sais, jusqu'à tout récemment, avant qu'elle naisse, mon futur, c'était moi, mais là, mon futur, c'est elle aussi.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose, il y a une passation là-dedans qui est assez vertigineuse.
On s'arrête ici. Arnaud Soli est notre invité dans cette entrevue sans filtre. On poursuit tout de suite après. Je suis en compagnie de l'humoriste Arnaud Soli, jeune, 30 ans, vient d'avoir un bébé, s'inquiète un peu pour sa fille Romane. Es-tu le genre angoissé?
Oui. Je suis du genre angoissé, mais c'est étrange comme ma nervosité et mon anxiété est super intériorisée. Donc, je suis quelqu'un qui est assez calme dans ma manière de parler puis de vivre, d'agir. Mais je refoule beaucoup de stress. Puis là, ça sort en cauchemar. Et là, des fois, je me réveille la nuit en pleurant. Puis c'est
vrai?
Ah oui, mais j'intériorise beaucoup ça. Je sais pas si c'est un truc de gars, là, tu sais, de pas trop montrer ses sentiments ou de montrer qu'on est en contrôle. Mais là, depuis que j'ai ma fille, on dirait que je suis capable de plus mettre des mots sur mes peurs. Mais C'est un milieu assez compétitif.
L'humour, écoute.
Ouais, ben, on est beaucoup, beaucoup à vouloir faire ça. Peu d'appeler. Donc, c'est facile de tomber dans une mécanique où est-ce qu'on se compare avec les autres, où est-ce qu'on angoisse avec le nombre de billets vendus. OK, pourquoi j'ai pas eu ce contrat-là?
Donc, comment tu gères ça? Parce que, dans le fond, ça parle à tout le monde. C'est l'humour, c'est vraiment l'archétype de ce genre de problème-là, qui est la compétitivité, mais il y en a tous les domaines.
J'essaie récemment, j'ai même enlevé mes médias sociaux de mon téléphone. J'essaie de parce que je trouve que j'étais confronté à des idées négatives, puis ça me prenait tellement d'énergie. Je me comparais avec, le nombre de likes, puis le nombre de... Puis je trouve la meilleure...
Fait que t'as coupé tes réseaux sociaux.
Ben, des fois, j'y remets, là. Ouais. C'est une relation amour-haine, là. Puis c'est mon métier aussi. Mais j'essaie de focusser sur ce que moi, je fais. Puis quand t'es juste dans ta création, dans tes affaires, c'est difficile d'être malheureux par rapport aux autres. Tu sais, quand j'ai pas un rôle, je me dis, ben, c'est pas parce que... C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il laisse ce rôle-là, tu sais. Puis on est dans un métier où est-ce qu'il y a un appelé pour 10 qui auront pas la job. Donc... je pense que c'est plus un travail mental.
Mais c'est tough parce que là, les gens, est-ce qu'ils ont le goût d'aller me voir?
Aussi, oui. Hein? Ouais, ouais.
Puis quand t'es pas connu, comment t'es connu? Les réseaux sociaux, c'est une façon.
Voilà.
Faut qu'on te voit partout. Toi, ouais, on te voit pas mal partout. Là.
Ben, ça va bien, je peux pas me plaindre. Ouais. Mais tu sais, c'est encore aussi dans le... Quand t'embarques dans cette machine-là médiatique aussi, c'est de décider à un moment donné, où la limite? T'sais, est-ce que je veux absolument tout faire? Est-ce que je veux absolument être vu à ce point-là partout à tout prix ou je veux quand même garder une forme de choix puis d'intégrité dans mes apparences? Donc, il y a ces questionnements-là qui viennent dans une carrière où est-ce que moi, je commence à dire non? Puis c'est un beau problème, c'est qu'on a le choix, mais oui, c'est assez particulier.
Mais tu représentes bien ta génération aussi, je pense.
Ben, merci. Je pense que ma génération est...
Mais c'est une génération, tu me dis merci, mais c'est une génération plus angoissée que d'autres générations.
Définitivement.
Ouais. Plus anxieuse.
Complètement. Ouais. Et puis, on dirait que c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Je vois les jeunes qui vivent des crises de panique aux primaires et tout ça. Et je ne sais pas s'il faut peut-être questionner les structures en place dans notre société, que ce soit à l'école, que ce soit comment est-ce qu'on aborde le travail, la productivité. J'ai jamais été vraiment un fan de tout ce qui est rentabilité. On parle souvent en termes économiques ou industriels de toutes les facettes de la vie. Puis je pense pas encore moins pour un enfant qui veut se développer à travers la créativité, la curiosité, l'écoute, le partage. C'est toujours... En tout cas, il y en a pour qui ça fonctionne, la compétition. J'en connais des gens qui vivent de ça. Mais je pas sûr que c'est sain pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Puis c'est un peu de ça dont tu préviens ta fille dans cette fameuse lettre où tu lui dis tu vas devoir être... tu vas entrer à l'école, devoir t'adapter, te faire respecter, trouver des amis, mais rester indépendante, exceller à l'école sans non plus passer pour un petit Joe connaissant.
Oui, il y a ça.
Tu vas devoir être différente tout en te conformant un minimum pour pas trop déranger. Être belle à ta façon tout en respectant les codes de beauté véhiculés par notre société. Tu vas devoir te faire plaisir sans décevoir les autres et faire plaisir aux autres sans te décevoir. Je ne veux pas te mettre de pression, mais ça ressemble pas mal à ça.
Ouais, c'est un peu la joke dans la lettre. Je ne veux pas te mettre de pression, mais finalement, j'y en mets. Mais tu sais, ce que je lui dis aussi, c'est ce que je pense on se fait dire un peu par tout le monde.
C'est ça que tu ressens finalement aussi.
Ben, c'est ce que j'analyse de mon regard sur... notre monde, puis encore plus, je pense, les jeunes, tu sais, je le disais tantôt, mais les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Je veux dire, on vivait un petit peu toutes ces choses-là dans la cour d'école parce que, bon, c'est toujours comme ça, mais là, avec les réseaux sociaux, là, les jeunes, ils se comparent encore plus. Ah, lui, il est plus populaire que moi. Je sais pas en quoi ça peut être sain pour un enfant de vivre déjà cette espèce de...
Comment tu vas gérer ça?
Je le sais pas encore. C'est des questions que je me pose. Là, je suis content qu'elle n'est pas capable de faire le focus encore avec ses yeux. Fait que, tu sais, elle est loin d'avoir un iPhone.
Écoute, je lisais... Mais tu ris, là. Mais tu sais que je lisais une étude comme quoi les premiers mots... C'est quelqu'un qui me disait ça dernièrement. Le premier mot d'un bébé, il avait fait... C'était Google.
Google.
Oui, on parlait des...
Oh, mon Dieu.
C'est cette semaine, on parlait des assistants électroniques,
ouais, okay,
de la
Google,
technologie, du 5G dans les maisons et tout ça. Puis le spécialiste disait, les bébés, ils apprennent Google. Ils parlent à Google. Ils savent que Google est dans la maison comme une personne. C'est fou, là.
Mais je veux pas sonner comme quelqu'un qui dit que le...
Que la technologie est...
Non, parce qu'il y a plein de bons côtés dans le... Je sais que pour les jeunes, il y a des applications interactives.
Ça peut être très drôle.
L'écoute en ligne aussi. Si t'es capable de mettre les limites, tu sais, l'enfant peut avoir accès à un contenu super, super adapté puis éducatif. Mais ça vient toujours avec le côté plus sombre de ça, ben c'est vraiment, moi, je pense, le réseau social, il est pas fait pour les jeunes. Puis je le vois, là, je sais qu'il y a des jeunes de 12 ans sur TikTok, puis ces genres de nouveaux réseaux sociaux-là qui sont vraiment axés sur les jeunes. Je jette un œil là-dessus, moi, parce que c'est mon métier. Je me suis fait découvrir par Facebook puis Instagram.
Ouais.
Je suis très productif là-dessus. C'est comme ça que je me fais connaître puis que je me bâtis aussi une
audience.
En même
temps, tu dis... T'as dit tout à l'heure, j'ai une relation amour-haine avec ça.
Ben oui, parce que des fois, je le supprime de mon téléphone parce que ça me déprime. Je passe mes journées là-dessus.
Et ah non, mais attends, ça se peut pas. Là. Moi, j'ai vécu un moment d'horreur cette semaine. 3 commentaires désobligeants.
Ouais.
Ça te gâche ta soirée. Là.
C'est fini.
Là, tu dis, ça y est, OK, je déménage. Parce que comment t'arrives à gérer ça? Tu dois en recevoir aussi parfois.
Je les lis plus.
Non?
Je les lis plus. Je vois. Ben, des fois, c'est pas
vrai. Comment tu prends une distance? Là, tu vois, c'est pas vrai.
Ben oui, mais c'est ça, je te dis, j'aimerais ça pas les lire, mais il y a une curiosité aussi. On veut voir comment, parce que c'est un métier qu'on fait aussi pour faire plaisir, pour faire du bien aux gens. Puis la réaction du public, c'est un petit peu des fois le fruit de notre travail, puis la récompense. Mais justement, on lit des commentaires, puis les gens sont contents, puis là, il y a une personne qui t'insulte, puis là, ça te trotte dans la tête. Puis je sais pas, je pense que les artistes, on est toujours à la recherche de l'approbation puis de l'amour. J'aimerais ça être capable de pas m'en faire avec ça, mais on est sensible, puis c'est blessant, puis ça reste avec nous. Donc c'est un travail de long terme, d'apprendre à voler au-dessus des commentaires.
C'est ça.
On essaye.
Ouais. Bonne chance avec ton premier spectacle solo.
Merci.
Merci beaucoup, Arnaud Soli.
Un plaisir.
Merci à tout le monde. Ça a été une belle semaine en votre compagnie. Je vous souhaite un très bon dimanche de Super Bowl. Merci à Normand Jem, Isabelle Laure à la recherche. Merci à Sébastien Lapierre et je vous donne rendez-vous lundi. Bye tout le monde.